Bonjour à tous.
Je parle fort celui-là.
Après toutes les richesses qu'on a déjà reçues ce matin, je suis à me demander est-ce qu'il faut encore une prédication là-dessus. Bon, en même temps, je l'ai préparé, donc vous l'aurez. Mais voilà, je loue le Seigneur parce que on a déjà vécu. Depuis le début de ce culte, merci à tous ceux qui ont participé, à vous tous qui avez participé d'une manière ou d'une autre, par le chant, la prière, la présence, tout simplement. On a déjà reçu beaucoup de choses. Et puis comme Jeff m'a de toute façon un peu spoilé mon introduction, on va gagner un peu de temps. Puisqu'en fait, on était avec Christelle, on s'était un peu d'accord. Voilà, l'idée c'était, mais c'est très bien, hein, parce que ça veut dire... Ça donne une unité à tout ce qu'on raconte. J'atterris pas de la lune pour vous raconter une autre histoire. On est bien dans le même évangile de Luc, au même chapitre 15. Et l'idée, c'est de continuer un peu à réfléchir et à peut-être apporter quelques compléments, quelques idées complémentaires à ce qui a déjà été dit sur cette notion de perdu, retrouvé. Disparu, mort, et puis revenu et vivant. Et comme Jeff l'a souligné, effectivement, Jésus s'adresse... d'abord, en particulier en tout cas, à des gens qui ont du mal à le situer, mal à comprendre ce qu'ils racontent. Les scribes et les pharisiens qui murmurent, ils disent quoi, il accueille des pêcheurs, il mange avec eux. On a plusieurs autres, même dans l'évangile de Luc, hein, on a d'autres textes au chapitre 5, on a déjà des réflexions de cet ordre-là. Jésus qui... avait un comportement de docteur, de prophète, de quelque chose un peu de ce type-là, avait par ailleurs des attitudes qui les gênaient. Puis manger avec eux, alors il se met en risque d'impureté. Hein, l'impureté, c'était très important au travers des aliments. Bon, les scribes et les pharisiens se préoccupaient sans doute plus de l'impureté dans leurs assiettes que dans leur comportement. Ou en tout cas, c'est ce que l'Évangile essaye de nous faire comprendre. Donc soyons aussi attentifs à ça. Et puis Jésus prononce des paroles simples, des histoires simples, mais dans la profondeur. Et pour ça, donc, réaliser cette histoire du fils prodigue ou du père prodigue, ou appelons-le comme on le veut, de ces trois personnages, cette famille particulière de la Bible, on l'a entendu pour la plupart d'entre nous des dizaines de fois, mais il est toujours bon de replonger dedans et de continuer à voir. La Bible reste une source inépuisable de connaissances et de liens avec notre Père Céleste, avec celui qui veut nous nourrir jour après jour pour vivre, puisque nous sommes appelés à vivre sur cette terre dans des conditions qui, à certaines époques, sont très faciles, très heureuses, et en ce moment, c'est un tout petit peu plus turbulent, quoi, on va dire, en tout cas par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, et on en entend, on en voit peut-être un peu trop. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons besoin de revenir à la simplicité d'un message, à la simplicité de ce que Dieu veut pour nous. Même si après, dans la mise en œuvre, c'est difficile et pour chacun, c'est compliqué. Vous savez, à l'église de Corinthe, dès les premiers chapitres de cette lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe, il les met en garde contre ça en disant « Mais l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui sont trop savants. Et vous savez, parmi vous, il n'y a pas de sages, il n'y a pas de gens comme ça. Il n'y a que des personnes qui ont accepté que Jésus était mort pour eux. » Et alors qu'il y avait déjà des divisions dans cette église qui, petit à petit, voilà, se scindaient. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos. Et s'il est ça, c'est-à-dire qu'il disait que la doctrine de l'un était meilleure. On commençait à intellectualiser la foi chrétienne et la vie selon la parole de Dieu. Et Paul leur dit, mais ce n'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est votre rapport avec Jésus. Alors, ce chapitre 15, comme ça a été dit, effectivement, il y a trois paraboles. On va un peu revenir sur chacune d'entre elles. Donc la brebis perdue, bon, je la redis pas puisque Jeff l'a citée, mais c'est une image qui parlait sans doute plus à l'époque des auditeurs de Jésus qu'à nous aujourd'hui, hein, parce que bon, alors à part sur les émissions de la télévision, je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont gardé des troupeaux. Moi, oui, quand j'étais tout petit, à la ferme d'à côté, on allait aider les vachers à garder les vaches. Mais oui, j'ai fait des tas de trucs dans ma vie. Ça se voit pas, mais. Et donc, Jésus s'inspire là de choses qui sont vivantes et qui, en plus, étaient déjà dans les textes dont il se servait, les textes qui étaient leur Bible de l'époque, l'Ancien Testament. Les prophètes, à plusieurs reprises, utilisent les mêmes images qui étaient celles qui parlaient véritablement aux gens. Par exemple, le prophète Jérémie, au chapitre 50, « Mon peuple est un troupeau de brebis perdues, leurs bergers les égarent, les détournent par les montagnes, et elles vont de montagne en colline, oubliant leur gîte. Tous ceux qui les trouvent les dévorent. Leurs adversaires disent, mais c'est pas notre faute, puisque ceux qui se sont éloignés, ils ont péché contre l'Éternel, l'espérance de leur père. » Ça, c'est dans le prophète Jérémie. Le prophète Ézéchiel, chapitre 34, prophétise et dit aux bergers, « Malheur aux bergers qui se repaissent eux-mêmes, les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis ? Vous mangez la graisse, vous utilisez la laine, vous sacrifiez les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. » Et peut-être que ces images et ces textes étaient dans la tête de Jésus, en plus de ce qu'il voyait autour de lui, dans cette société agricole, pastorale de l'époque. Et l'image est très caricaturale, radicale, comme souvent dans les paraboles. Une parabole, c'est une petite histoire courte. Il faut que le sens frappe tout de suite. Ce que Jésus nous dit, c'est que même si 99% du troupeau est safe, si j'ose dire, pour 1%, le berger, il va passer son temps à aller chercher sa brebis. C'est le premier enseignement que je tire de ce texte. 1%, c'était une brebis sur un troupeau de 100 brebis. Pour 1%, on se dirait peut-être, tant pis, ça fait partie des pertes et profits, et voilà, laissons tomber, il en reste quand même 99, on voit déjà pas mal, on augmentera un peu le prix des autres, et puis comme ça, finalement, la balance se restera équilibrée. Non, pour 1%, le berger part à la recherche, et il va chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Son objectif, c'est de la trouver, de la ramener, et du coup de se réjouir avec tout le monde, de transformer cette marche, cette recherche peut-être fatigante, éprouvante, dangereuse, je ne sais pas, en quelque chose qui se transforme en joie, en quelque chose qui mérite de faire la fête avec ses copains, d'appeler tout le monde et dire venez faire la fête avec moi, il s'est passé un truc formidable. Alors je ne sais pas ce que les copains lui ont dit, ils ont dit ouais, t'as pris des risques, moi j'aurais été toi, je l'aurais laissé tomber. Non, je ne sais pas, on ne sait pas. Alors, en entendant cette histoire, bien sûr, les auditeurs dont parlait Jeff tout à l'heure, ils ont dû se sentir visés. C'est clair que ce que Jésus leur disait, il disait, voilà, il y a des gens bien, et puis il y a des gens que vous jugez moins bien. Ben, c'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour les sauver, eux, que je fais tout ce travail parmi vous. La centième brebis, c'est peut-être ces péagers, ces pêcheurs, ces gens qui ne méritaient pas leur considération et pour laquelle le berger laisse tout tomber. Dans un autre texte de l'évangile de Luc, vous savez, Luc rencontre, il traverse Jéricho et là il rencontre un certain Zachée. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire. Le petit homme, il était petit, alors il a fallu qu'il monte sur un arbre pour voir passer le cortège, Jésus et sa suite, le cortège qui était avec lui. Et à la fin de la rencontre où il se passe une conversion, vraiment Zachée, avance dans sa relation avec le Seigneur, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu flatter ceux qui avaient déjà tout compris, il est venu chercher et sauver la centième brebis, celle qui avait pris le mauvais chemin, la mauvaise route. Et c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, pas seulement aux auditeurs de Jésus, quelle que soit ta situation, quelle que soit peut-être ta faute, quelle que soit la distance que la vie, toi-même, tes circonstances ont mises entre toi et ton berger, il est prêt à faire tous les efforts, et ça a déjà été rappelé à plusieurs moments ce matin, à faire tous les efforts pour aller te chercher. Même si tu es au fond d'un ravin, où tu es en train de bêler là parce que tu n'as pas les moyens de t'en sortir tout seul, eh ben, il va faire ce qu'il faut pour aller te récupérer. L'apôtre Paul, vous savez que des fois un peu casse-pied parce que je cite beaucoup de textes de la Bible. Alors s'il y en a qui veulent les références, je peux les redonner après si vous n'arrivez pas à tout noter. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dit ça avec des mots que, bien sûr, beaucoup connaissent par cœur. Dieu prouve son amour envers nous Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore rien du tout. Pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ce que nous avons rappelé avec force au travers de ce moment solennel, comme ça a été rappelé de la Sainte Cène, qui n'est pas seulement une histoire, une mémoire qu'on ressort de temps en temps en regardant un album photo, mais quelque chose qui a transformé la vie de l'humanité et j'espère qui a transformé la vie de chacun d'entre nous. La deuxième parabole qu'on trouve dans ce chapitre 15 de Luc, elle est un peu plus loin, enfin, elle est un peu moins pastorale. D'abord, une drachme, qu'est-ce que c'est qu'une drachme? Vous savez tous ce que c'est, non? Je pense qu'il faudrait actualiser, peut-être parler aujourd'hui d'un euro, d'un dollar, d'un bitcoin, peut-être. C'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Encore, je ne comprends rien au bitcoin. Un jour, il faudra que quelqu'un m'explique ce que c'est, comment ça marche, parce qu'on entend parler, ça fait rêver certains et ça effraie les autres. Et moi, je ne sais pas. Peu importe. Une drachme, c'était une pièce de monnaie qui valait, semble-t-il, à peu près le salaire journalier d'un ouvrier. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans certains commentaires. Donc, on va dire quelque chose qui est, je ne sais pas, entre 50 et 100 euros. Alors, selon les pays, selon la valeur du SMIC, je ne sais pas quoi. Enfin, après, on peut trouver. Peu importe. La valeur n'a pas une grande importance. C'est un peu comme si elle avait comme ça un sac avec... Vous savez ce que c'est, ça? C'est un Napoléon, ça s'appelle. Alors, bon, c'est une de ces pièces que les gens collectionnent et qui prennent de la valeur, etc. Donc, mettons que cette femme, elle avait reçu, peut-être en héritage ou en cadeau, ou parce qu'elle avait gagné un concours, enfin, je ne sais pas, quoi. Elle avait un sac dans lequel il y avait 10 de ces pièces-là. Et puis, le sac était un peu usé, voilà. Et sans qu'elle s'en rende compte, il y a une pièce qui s'est échappée. Puis elle ne l'a pas entendu, il y avait quelqu'un qui passait l'aspirateur dans la pièce à côté, je ne sais pas quoi, enfin voilà. J'essaye de vous dépeindre un truc qui est à peu près compréhensible d'aujourd'hui, et puis la pièce, elle est allée rouler sous le lit, elle est allée se caler là-bas derrière, donc elle n'a rien vu. Voilà. Et puis quelques temps après, vous savez, comme tout le monde, elle a un trésor, donc elle veut compter les pièces quand même. Hein, enfin, elle est allée consulter son relevé bancaire, enfin je ne sais pas, enfin, actualiser ça comme bon vous semble. Et puis, vous savez, c'est comme... Vous avez vu le film La Folie des Grandeurs, je pense, hein? Hein? Bon. Il en manque une! En êtes-vous sort? Tout à fait sort, hein? L'échange entre deux funestes et Yves Montand. Ben, c'est ce qui lui arrive, elle compte, mais c'est pas possible, j'en avais 10. Il n'y en a plus que 9. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, elle aurait pu aller pleurer, elle aurait pu faire une déclaration de vol, elle aurait pu, je sais pas quoi, voir si son assurance allait prendre en charge une partie du problème, enfin, on peut tout dire. Non, elle se met à quatre pattes, elle retourne toute sa baraque. Voilà, tout ça, et elle cherche, et elle cherche, et elle finit par trouver. C'est ça, cette histoire que Jésus raconte. C'est une histoire, et là, la perte potentielle avec la brebis, c'était 1%, et là, on est à 10%. Ah oui, là, il y avait 10% quand même de perte sur un trésor qui était quand même important, avec des pièces qui avaient une vraie valeur. Alors, cette parabole, elle est un peu plus difficile à expliquer, parce que, bon, la brebis perdue, le fils prodigue, on rentre dans les personnages, quoi. Qui c'est la brebis, qui c'est le berger, qui c'est le père, qui c'est le fils aîné, qui c'est le fils prodigue. Bon, chacun après met le masque qu'il a envie de faire pour jouer là. Là, on ne va pas s'identifier à une pièce de monnaie, ça n'a pas de sens, même si Napoléon avec sa barbiche, bon, certains y ressemblent. Mais non, c'est pas la même barbe qu'il avait à l'époque de Napoléon III. Et donc, moi, ce qu'elle me dit, cette parabole, ce qui est fondamental et qui ressort de ça, c'est que il y a un manque. Il manque une pièce et du coup, il y a un manque. Il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a quelque chose qui n'est pas supportable. Mais un manque et une souffrance pour qui? Et je pense que ce qui est fondamental, là, qu'on peut en tout cas lire dans cette parabole, c'est que si nous ne sommes pas à notre place, si nous avons roulé sous un lit, si nous nous cachons là volontairement ou involontairement, ou si nous n'osons pas en sortir, ou si les circonstances nous ont amenés quelque part, ça fait souffrir Dieu. Ça le rend triste, ça lui fait une blessure, parce que notre place, nous, elle est dans le trésor avec le reste. Nous sommes le trésor de Dieu, et parfois ce trésor, par des circonstances qui appartiennent à chacun, il quitte sa place, et il est caché loin, et du coup... Il passe à côté de ce que Dieu voudrait faire de nous. Dans les prophètes, les gens exprimaient des choses avec force. Encore le prophète Jérémie, qui au chapitre 4, « Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, ce qui se passe. Dieu pleure, hein, ces notions d'entrailles qu'on trouve souvent dans la Bible, ça le prend aux tripes. Notre place est d'être parmi les enfants de Dieu. Notre place est d'être là où le Seigneur nous veut, mais nous avons peut-être roulé loin de sa portée. Nous sommes, voilà, un peu loin. Ce que, là encore, on revient dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La destinée, tous les êtres humains sont à côté de la plaque. Être privé de la gloire de Dieu, c'est... Quelqu'un m'avait un jour dit, il y a très longtemps, c'est une expression qui veut dire qu'on a le bras trop court pour atteindre une cible. Je trouve que cette expression, qui est assez bien traduite dans les Bibles en anglais d'ailleurs, voilà, tous sont péchés et sont privés. C'est-à-dire, ils aimeraient bien y arriver, les êtres humains, mais ils ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes. Ils ont besoin que quelqu'un vienne les chercher, que quelqu'un leur fasse la courte échelle d'une certaine manière, les prenne sur les épaules et les aide à atteindre ce que Dieu veut nous donner. Et Dieu nous cherche et il déploie tous les moyens. Vous savez que j'aime bien la Bible et même les textes un peu bizarres. Vous savez, il y a un livre, on tourne souvent autour parce qu'on ne sait pas trop comment le prendre, même s'il y a des tas de commentaires qui ont été faits, le Cantique des Cantiques. C'est un livre étonnant ce livre. Alors évidemment, bon, il y a eu telle explication, psychanalytique, machin, tout ce qu'on veut. Je lis quelques versets et simplement je me laisse pénétrer par cette idée que, d'une certaine manière, ça représente les paroles, comment Dieu se situe par rapport à nous et quelle est notre relation avec Dieu. J'ai cherché, dit Dieu, celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Alors je me lève, je fais le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je cherche celui que mon cœur aime et je n'arrive pas à le trouver. Les gardes font le tour de la ville. Est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime ? Et je les dépasse. Et ça y est, je le trouve. Alors je le saisis et je ne le lâche pas. Et je trouve que ça illustre tout à fait la manière dont Dieu s'est engagé pour nous trouver. Il nous aime au point de tout laisser. Et même si nous sommes cachés vraiment dans une rainure du parquet, sous le lit, là-bas, ou derrière l'armoire, parce que la pièce, elle a roulé sans qu'on la voie, Dieu veut nous chercher, il veut nous rassembler. Dans l'évangile de Luc, qui décidément est vraiment riche dans ces pensées-là, quand Jésus dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu ?» Et bien souvent, c'est nous qui mettons des obstacles. Alors peut-être parce que nous refusons ou parce que nous n'osons pas avancer. Comme le fils prodigue, il a longtemps cru qu'il pouvait se passer de son père, à condition qu'il ait son argent quand même. Bon, c'est sûr. Mais bon, il pouvait se passer de la maison paternelle, il pouvait se passer de toutes ces contraintes qu'on voulait faire, il n'avait pas du tout envie de reprendre la ferme, etc. Enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Jusqu'au jour, il est rentré en lui-même. Et c'est cela aussi que nous sommes appelés à faire. Ces paraboles, toutes ces paraboles et beaucoup d'autres qui sont dans la Bible, nous raconte comment l'homme, au fil des siècles, s'éloigne toujours de la voie droite. Et l'histoire de l'Ancien Testament montre qu'en permanence, le peuple d'Israël, qui était celui qui était porteur de la parole de Dieu, s'éloigne, Dieu le cherche, le ramène, puis ça repart, puis ça recommence. Mais ne pointons pas du doigt les uns et les autres, même si aujourd'hui il nous est facile à nous d'accuser tel ou tel dans le monde. On n'est pas là pour accuser, non, je n'ai pas cité de nom, parmi les gens qui gouvernent la planète. Et chacun a sa liste de cibles. Mais c'est nous d'abord qui sommes les premiers concernés. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui disait « Seigneur, nous voulons l'unité ». Et ces trois paraboles, le berger, lui, voulait juste l'unité de son troupeau. Et c'était anormal qu'une soit partie, se perde, et qu'il n'en reste plus que 99, parce que son troupeau, c'était 100 brebis. La dame qui avait son sac de pièces, ça, elle, ce qu'elle voulait, c'était l'unité de son trésor. Son trésor, c'était 10 pièces d'argent, d'or, que sais-je. Et il en manquait une. Donc il y avait une souffrance, il y avait une blessure. Le père de famille, dans l'histoire du fils prodigue, lui, il voulait l'unité de sa famille. Et puis, pouf, ça commence à se disloquer. Alors l'histoire s'arrête au moment où le père est dehors en train de discuter avec le fils aîné. Alors après, je vous laisse chacun raconter, imaginer la suite, hein, vous faites. Prenez une feuille, vous avez une demi-heure, et je ramasse les copies après. On peut imaginer les suites. que le fils définitivement claque la porte et c'est lui qui fiche le camp à son tour, ou bien qu'au contraire il se laisse, enfin voilà, et que la famille se reconstitue. En tout cas, le désir du Père, comme le désir de notre Dieu, c'est que toute sa famille, la famille des enfants de Dieu, soit unie. Et bien souvent, nous nous écartons, nous prenons des voies de traverse. Et personne n'est, si j'ose dire, meilleur que d'autres, même si certains sont plus avancés en âge, évidemment, ou ont suivi des chemins qui paraissent plus clairs, etc. C'est pas important. Vous savez, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans l'épître aux Philippiens, qui est sans doute une des dernières qui a été écrite, il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Lui, l'apôtre Paul, en quelque sorte, lui qui a posé les bases de l'Église chrétienne qui a duré, qui dure maintenant depuis 21 siècles. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, Philippiens 3, verset 12, mais je poursuis la course afin de saisir le but, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus a tout donné, et on l'a rappelé tout à l'heure dans la Sainte Cène, mais chacun de nous le vit avec une expérience personnelle, particulière, qui fait que nous pouvons dire, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors je cours, parce que je sais bien que je suis encore loin du but. Pour moi-même, dit Paul, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour arriver jusqu'à obtenir le prix. L'apôtre Paul, qui nous dépasse tous de la tête et des épaules, si j'ose dire. Et pourtant, lui aussi, il se disait qu'il avait encore besoin d'avancer. Alors, pour ne pas trop prolonger, juste encore quelques remarques sur ces trois paraboles. Et j'aime bien qu'on les voit, c'était bien l'idée de Christelle de les regarder ensemble. C'est vrai, souvent on les étudie l'une après l'autre. Et là, toutes les trois, elles parlent de quelque chose d'un peu similaire. C'est l'éloignement, le manque, la douleur le rapprochement. Mon fils était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est de nouveau vivant. Voilà, ce sont des choses qui parlent. Ma brebis, elle était perdue, elle était morte au fond de son ravin. Ben, maintenant, elle est de nouveau vivante et on fait la fête avec les copains. Ma pièce, elle était disparue et je pouvais faire une croix dessus, mais non. Elle a repris sa place dans le sac avec les autres, dans le trésor. Alors, vous avez constaté la progression que j'ai un peu soulignée. Avec la brebis, c'est 1% du troupeau pour lequel la drachme, c'est 10%. Avec le fils prodigue, c'est 50%. C'est peut-être même 100%, parce que, alors, selon... que moi aussi, j'ai les mêmes pompes que Christelle. Hein, donc, le livre de Timothy Keller, le dieu prodigue, il dit que... Alors, moi, je ne suis pas historien. À l'époque, quand on partageait son héritage, deux tiers allaient au fils aîné et un tiers au fils cadet. Donc ça veut dire que le père, quand il a distribué son héritage, il ne lui restait plus rien. Il ne restait plus que l'usufruit de sa maison, et encore, il ne fallait pas qu'il l'abîme trop, hein, parce qu'elle allait revenir à quelqu'un d'autre. Donc, pratiquement, dans la parabole du fils prodigue, la perte, elle est complète. Le père, il a pratiquement perdu, l'un à très court terme et l'autre à un peu plus long, ses deux fils et tout ce qu'il avait. 1%. 10%, 50%, quelle que soit la comptabilité qu'on fait, dans tous les cas, Dieu est là et son objectif, c'est de chercher, d'aller jusqu'au bout chercher. Ça m'a fait penser à... Je ne sais pas si j'ai le temps de rappeler ça, si, un petit peu. Allez, vous êtes patients, c'est bon. Il y a un autre marchandage comme ça dans la Bible. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Qui est inversé. J'ai entendu Abraham, oui. Dans la Genèse, au chapitre 18, Dieu annonce à Abraham qu'il est venu pour détruire Sodome et Gomorre parce que leur péché avait atteint un niveau insupportable et qu'elles allaient périr, etc. Et Abraham, qui savait que dans cette ville était son neveu Lot et sa famille, va marchander. Il dit, mais attends, Dieu, ta grandeur est connue, etc. S'il y avait 50 justes dedans, tu l'as détruit. Non, bon, d'accord, pour 50 justes. Et 45, et 40. Et vous regarderez ce marchandage et c'est... Foiré au souk, quoi, hein. C'est vraiment ça. Je négocie, je pars. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des endroits où on marchande comme ça. Ça se fait plus trop dans nos magasins. Et Abraham marchande 50 juste, 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10. Soyons fous, même s'il n'y en a que 10. Et les envoyés de Dieu disent, s'il y en a 10, je ne détruirai pas ces 10-là. Et d'ailleurs, Lot et sa famille, ça faisait peut-être à peu près une dizaine de personnes. Ils ont été extraits, ils ont été exfiltrés, comme on dit dans les romans d'espionnage, au dernier moment, et ils n'ont pas péri. jusqu'au bout, nous pouvons être recherchés par Dieu, quel que soit notre éloignement, quelle que soit notre situation. Et l'arithmétique que nous mettons souvent et qui fait que nous nous arrêtons en disant « Mais non, Seigneur, je n'en vaux pas la peine, je ne suis pas... » Le fils qui revient, le fils prodigue, quand il revient, sa pensée c'est « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Est-ce que le père lui dit « Mais si, tu l'es, tu restes mon fils, tu restes mon fils. » Alors bon, tu as pris un chemin que certains, voilà, qui est peut-être critiquable, d'ailleurs tu t'en es rendu compte toi-même, mais pour autant tu ne peux pas dire « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Et nous sommes dignes d'être appelés les fils de Dieu, même si par un moment nous nous sentons loin, même si par moment on ne trouve plus le contact, on a l'impression que la ligne est coupée, qu'on ne sait pas faire, mais quand même, nous restons les enfants de Dieu. Et puis, peut-être la dernière remarque que je fais, sur laquelle il ne faut pas passer complètement. Dans ces trois paraboles, les trois paraboles se terminent par un geste, de repentance. Il y a un chemin que nous avons à faire. Hein, même si, par rapport aux deux premières histoires, la phrase est mise dans la bouche de Jésus et elle est un peu décalée par rapport à l'histoire, mais il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Rien ne nous dit que la brebis s'est repentie. La brebis, elle était au fond de son trou, elle ne s'est pas repentie. Mais ce que Jésus veut rappeler aussi, c'est quand même cet élément est important. Pour la drachme, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc ce que Jésus dit, c'est « Moi, je suis là, je cherche, et j'attends que l'homme accepte ma main tendue. » Et à ce moment-là, tout peut redevenir normal. Et le fils prodigue, lui, s'est traduit par ces mots, il est rentré en lui-même. Hein, il a fait cette introspection. Non seulement il a fait cette introspection qui lui a montré à quel point il était loin de ce qui était attendu, mais du coup, il en a tiré une action, il s'est mis debout et il est allé. La repentance peut parfois nous amener au désespoir. Ce que Dieu attend de nous, c'est que non seulement nous prenions conscience de notre situation, de notre état, de nos manques, de ce qui nous reste à corriger peut-être dans nos vies, dans nos pensées, dans ce que nous faisons, etc., etc. Mais il demande aussi que nous nous mettions debout. J'irai vers mon Père. Voilà, je me suis rendu compte où j'étais allé, mais maintenant que je m'en suis rendu compte, je me mets debout et j'avance et je retourne vers mon Père et je vais régler la situation avec lui. Les promesses de Dieu sont formelles. Est-ce que nous y croyons ? Vous connaissez ce texte dans le livre des Chroniques. « Si mon peuple, sur qui est invoquée ma voix, s'humilie, prie et me cherche, je m'approcherai de lui, je guérirai son pays, etc. » Vous connaissez ce texte. 2 Chroniques 7, verset 14. Le Seigneur est prêt à corriger nos manquements, à aller nous chercher même si nous sommes partis bien loin, à condition que nous puissions nous tourner vers lui. Je lis le dernier verset du plus long chapitre de la Bible. C'est quoi le plus long chapitre de la Bible ? Plus fort, j'entends rien. Le psaume 119, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le verset 176. Qui dit « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur. Je me reconnais errant comme une brebis perdue, mais Seigneur, je t'appelle et je te demande de me chercher. » Et le Seigneur nous promet de le faire. Ces paraboles, ces histoires qui illustrées, qu'on pourrait transposer dans notre vie d'aujourd'hui, nous montrent que la patience de Dieu est sans limite, qu'il nous cherche. Il attend juste que nous disions « Oui ». Cherche ta brebis, Seigneur, et ramène-moi dans le troupeau, là où je serai bien. Je vous invite à la prière.